ouvre mes yeux. Ça me rappelle ce que le frère qui a partagé il y a 2 semaines avec nous, Gilles, à un moment donné, qui était devant l'Assemblée, il a vu les frères et sœurs d'une autre façon. Il les a vus comme bienveillants envers lui. Il a exprimé cette pensée-là. Son regard sur les membres de l'Assemblée a changé. Il les a vus autrement. Alors, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le voir mon Sauveur face à face, le contempler dans sa bonté. J'ai encore prié, puis je vous apporterai le message que j'ai préparé par la grâce de Dieu ce matin. Seigneur Dieu, Père Céleste, je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu accomplis pour nous et au milieu de nous, parce que tu es là à l'œuvre et que tu peux te glorifier pleinement dans nos vies, Seigneur. Amen. Le Seigneur vient et nous l'attendons. Dans la première épître aux Thessaloniciens, il est question de la vraie conversion. Ce qu'est une vraie conversion. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10. Alors l'apôtre ne dit pas, car comme vous vous êtes vraiment convertis, il dit simplement vous êtes convertis. Mais on voit là, on entend de sa part ce qu'est, de façon très simple, des termes très simples, ce qu'est une vraie conversion. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Deux versets qui situent la situation du chrétien, de l'enfant de Dieu racheté. Avec ce préalable, accueillir le témoignage des apôtres. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Certains se ferment, d'autres s'ouvrent lorsque la parole de Dieu vient vers eux. Et comment vient-elle, cette parole? Par des personnes qui portent la parole. Versets 4 et 5, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Les apôtres sont allés apporter, par la puissance du Saint-Esprit, la prédication de l'évangile. L'évangile est une prédication, une parole adressée. Ce n'est pas seulement une méditation. L'évangile est une parole adressée dans le but de toucher le cœur à partir de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et ce sont les apôtres qui ont été chargés premièrement d'aller annoncer Jésus. Annoncer Jésus mort et ressuscité. Donc à l'origine de toute conversion, il y a le message de l'évangile transmis par les apôtres et repris maintenant par les prédicateurs. Évangile du Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Alors quelle importance que ce soit le message transmis par les apôtres qui nous parviennent. Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont vu le Christ ressuscité. Quand il s'est agi de remplacer Judas, Pierre a dit « Il faut que l'un d'entre nous le remplace comme témoin de la résurrection du Seigneur. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur. Et toute leur doctrine se construit sur la résurrection. Et cette résurrection, ils peuvent la proclamer et en tirer toutes les conséquences parce que le Seigneur s'est montré à eux, parce qu'il les a instruits avant, mais aussi après sa résurrection, pendant les 40 jours pendant lesquels il était avec eux. La résurrection donnait corps à tout le message et les actes du Fils de Dieu. Elle est le ciment de tous les faits et paroles qui concernent l'amour et la justice de Dieu envers les pécheurs révélés dans la personne de Jésus. C'est le même apôtre, dans son introduction de l'Épître aux Romains, qui dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Ici, l'apôtre, au cours de ces deux versets, ces expressions très simples de ce qu'est la foi des Thessaloniciens, mais de tout croyant en Jésus, dit que le Dieu vivant et vrai a ressuscité des morts son Fils. Dans 2 Timothée, au chapitre 1, nous pouvons lire les versets 9 à 11. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. La grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ notre Sauveur, a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Combien il était important que les apôtres aient pu témoigner de Jésus revenu à la vie. Car la résurrection de Jésus nous est envoyée. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Pourquoi est-ce qu'il a mis en évidence la vie et l'immortalité ? Pas seulement pour nous dire que Christ est ressuscité pour lui-même, mais pour nous dire que sa résurrection nous concerne. L'Évangile, c'est ce qui nous concerne, c'est la bonne nouvelle qui nous concerne. La vie et l'immortalité mises en évidence par l'Évangile revient vers nous. Dieu nous donne sa vie par la résurrection de Jésus qui a souffert pour nous. Dieu seul possède l'immortalité, a affirmé l'apôtre juste dans la première épître, au chapitre 6, verset 16. Non, je prends à partir du verset 14. Alors nous sommes appelés à garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Nous sommes appelés à vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui va révéler le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu qui seul possède l'immortalité. Et pourtant, alors que seul Dieu possède l'immortalité, nous sommes maintenant au bénéfice, par l'évangile, de cette immortalité. Notre Sauveur Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Par la victoire de Christ sur le péché et la mort, nous sommes rendus vivants pour l'éternité. Nous avons la vie éternelle par notre Seigneur qui s'est donné pour nous. Vous savez bien sûr que dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, nous qui étions autrefois des enfants de colère, avec l'esprit qui agissait en nous, les fils de la rébellion, etc., nous marchions selon les convoitises de la chair. Mais, verset 4 de ce chapitre 2, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a rendus vivants. C'est une chose déjà acquise. Et donc nous pouvons aujourd'hui, comme l'apôtre en témoigne pour les Thessaloniciens, nous pouvons aujourd'hui servir le Dieu vivant et vrai en attendant son Fils. Nous pouvons servir le Dieu vivant et vrai parce que nous avons été rendus vivants en Jésus-Christ. Nous sommes en phase avec Dieu. Nous sommes dans la communion de Dieu par l'esprit de vie. Telle est la vocation du croyant racheté, servir Dieu. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, dit également l'apôtre, Romains 1, verset 9. La persuasion du Saint-Esprit est donc de produire notre conversion à Dieu, qui est le préalable de tout, bien entendu, si nous recevons et entendons l'évangile de la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à nous convertir dans le but de le servir. Bien sûr que cette persuasion du Saint-Esprit, elle a déjà agi au milieu de nous, elle a agi pour vous, elle a produit, je l'espère en tout cas, la conversion à Dieu parmi vous. Cela est une évidence qui se révèle par l'abandon des idoles. Ici, il y a vraiment cette conversion est signifiée par le fait d'abandonner les idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, en abandonnant les idoles. Les idoles, vous savez bien, notre frère Samuel avait parlé au sujet de l'idolâtrie il y a quelque temps, mais rappelons, le point de départ de l'idolâtrie, c'est tout simplement des figures, des représentations vers lesquelles les hommes se tournent et qu'ils servent, auxquelles ils adressent des prières, des sacrifices, des offrandes, voilà. Des figures. Et c'est cela que les chrétiens, les premiers chrétiens, eux, ils vivaient dans ce monde où l'idolâtrie était partout. Où pour appartenir à une corporation d'artisans, il fallait adorer l'idole du groupe. Et ainsi de suite. C'était, voilà, si vous allez en Inde, nous avons eu ce privilège d'aller en Inde, à peine sorti de l'avion, dans l'aéroport, vous êtes environné de représentations d'idoles, de dieux de toutes sortes. Et vous ne faites pas un pas dans la rue, à chaque coin de rue, vous trouvez des autels et des représentations des idoles. C'est ça l'idolâtrie, dans sa manifestation la plus primaire et ancestrale. Et les chrétiens, qui étaient, enfin les païens de l'époque, qui entendaient l'évangile, ils étaient fortement attachés à leurs idoles. Eh bien, ils ont abandonné leurs idoles, ils les ont arrachées de leur cœur pour se tourner vers Dieu et pouvoir le servir. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit on aimera l'un et on haïra l'autre, soit on haïra l'un et on aimera l'autre. Donc pour servir Dieu, il y a ce passage obligé de l'abandon des idoles. Si vous aviez des idoles, vous les serviez de diverses manières. Si vous avez abandonné les idoles, parce que les idoles, elles ont perduré tout au long des millénaires, mais dans le christianisme, elles ont pris une forme un peu particulière, c'est-à-dire que elles ont été, les idoles païennes ont été éliminées, détruites, etc., mais elles ont été remplacées par le culte des saints, par les statues de la Vierge, des saints, etc., à qui on adressait les prières. Donc l'idolâtrie a demeuré à travers de cette façon-là. Mais avec le monde moderne, les choses ont évolué, et bon, l'esprit religieux s'est atténué au profit du rationalisme, etc., et apparemment, les gens maintenant ne vont plus, enfin quelques-uns bien sûr, mais en masse ne vont plus adorer les saints, donc dans le contexte catholique. Et il semblait, il y a encore 30 ans peut-être de ça, que l'idolâtrie par les statues n'avait plus de réalité. Et comme le monde s'est détaché de Dieu et de la religion, que s'est-il passé? Eh bien, d'autres idoles sont apparues et ont commencé à envahir petit à petit les maisons, les jardins, etc. Et vous n'allez pas maintenant dans un espace jardinerie, dans une grande surface, sans trouver les représentations, soit des Bouddhas, soit des dieux, des têtes de dieux hindous, etc., supposés apporter quelque chose de particulier, le sentiment de paix, de relaxation, etc. Enfin, et on finit par trouver dans des endroits très laïcs ce genre d'idoles et de dieux qui sont là, mis en évidence. Parce que le cœur de l'homme est idolâtre. Alors vous, si vous êtes converti à Dieu, vous avez abandonné les idoles, vous n'avez plus de figure chez vous, vous ne fréquentez pas les lieux où elles sont mises en évidence, vous vous sentez mal à l'aise. Moi, d'ailleurs, à certains moments, je suis mal à l'aise quand je rentre dans certains rayons des grandes surfaces, mais je me dis, à quoi ils sont arrivés de remplir comme ça, de proposer à la convoitise des gens, puisque ça se fait par le moyen de l'argent, bien sûr. Tout ça, c'est quand même toujours lié au commerce. Comment en sont-ils arrivés à produire comme ça cet intérêt pour des représentations, pour des figures? Eh bien, vous les avez abandonnés. Vous êtes séparés de ceux qui les honorent pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça a donné, peut-être que vous avez jeté, je sais, certains ont jeté, à une époque ils jetaient les statuettes de la Vierge ou des saints, et puis plus récemment, il y en a qui jettent leur Bouddha, parce que c'est plus compatible avec la foi au Dieu vivant. Mais l'idolâtrie, je vais quand même dire, le fait de vous tourner vers le Dieu vivant pour le servir, abandonner les idoles, ça signifie aussi, dans le monde moderne, vous désolidariser de l'esprit moderne qui proclame l'autonomie humaine, sans plus aucune crainte de Dieu et de ses œuvres. Et ça se traduit actuellement par l'idolâtrie du droit à disposer de son corps. C'est une véritable idolâtrie qui, ces derniers jours, se traduit, on peut dire, à sa version dans l'idolâtrie des droits de la femme. Je le dis clairement, il y a aujourd'hui une idolâtrie des droits de la femme qui semble pouvoir exister, n'exister que par elle-même et pour elle-même. C'est le discours, la mentalité qui est en train et qui s'est imposée actuellement au sein de toutes les sociétés, pratiquement. L'idolâtrie des droits de la femme. Il est évident que la conversion à Dieu heurte de front cet état d'esprit. Quand l'apôtre demande aux femmes, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur », ça, c'est plus du tout compatible avec l'état d'esprit actuel. Mais maintenant, votre âme à vous est occupée de Dieu, de sa gloire, tout simplement. Vous avez abandonné les idoles et vous avez abandonné l'être humain comme idole face à Dieu. Parce que c'est ça l'enjeu actuel. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Le Seigneur n'est pas seulement monté au ciel pour nous donner la vie spirituelle, en laissant indéfiniment le monde sous la puissance du malin, à se moquer de sa gloire. Il faut aussi le jugement du monde et de son prince, et le renouvellement de toutes choses. Il faut la puissance de la résurrection se manifestant dans nos corps, qui justement ne nous appartiennent plus, mais appartiennent à Dieu maintenant. Philippiens, au chapitre 3, versets 20 et 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il faut cette puissance de la résurrection se manifestant dans nos corps corruptibles. Il faut notre réunion avec le Seigneur. Ces choses sont largement promises par le Seigneur et reprises dans l'enseignement des apôtres. Chaque semaine, nous annonçons la mort du Seigneur lorsque nous prenons la scène, jusqu'à ce qu'il vienne. Les fidèles de tous les temps ont porté dans leur cœur le désir de rencontrer le Seigneur et d'être avec lui lors de leur mort. Mais, et là, ils attendent aussi sa venue pour les réunir ensemble auprès de Dieu. Là, ils le serviront et ils régneront sur la terre. Je vous lis plusieurs passages dans l'Apocalypse, mais quand même, chapitre 22, versets 3 à 5, presque les dernières paroles de l'Écriture, cette annonce de ce qui arrivera à la fin. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Dieu exerce différents jugements, mais la colère à venir, que mentionne l'apôtre à la fin du passage, c'est le jugement définitif qui entraînera la condamnation éternelle. Et Jésus apparut pour nous délivrer de la condamnation, et sa nouvelle descente depuis les cieux apportera la délivrance totale à ceux qui l'attendent pour leur salut, alors que parallèlement sera déclenché le jugement du monde. Épître aux Hébreux, chapitre 9. Je lis à partir du verset 28. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et pour attendre des cieux son Fils, qui nous délivre de la colère à venir. L'accroissement de l'iniquité, les offenses envers Dieu, les rébellions contre toute forme d'ordre et de sagesse divine, bien sûr, inquiètent le croyant. À certains moments, on se dit, mais comment est-ce que les personnes ne peuvent plus raisonner correctement, penser, être dans la simple, parfois, logique? Et donc, on voit venir dans notre esprit, dans nos cœurs, le temps de la colère de Dieu. Le seul recours du croyant, quand il pense à lui-même, mais aussi quand il pense à toute la génération des hommes pieux qui subsistera dans les derniers temps, si les temps se prolongent, et que les manifestations du mal doivent être encore devenir pires, il y aura toujours une génération d'hommes pieux qui servira le Seigneur au sein du monde impie, mais au prix de grandes souffrances, au prix de persécutions, au prix de l'incompréhension, du mépris. Mais il y aura une génération qui restera fidèle à la révélation de Dieu. Mais l'espérance et l'attente, c'est que le Seigneur vienne, que le temps se prolonge ou qu'il soit écourté, que le Seigneur vienne parce qu'il a promis de venir chercher les siens en les ayant gardés jusqu'au bout. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est là avec nous. Alors la foi, eh bien, c'est aussi cette attente de Jésus, cette attente du Fils de Dieu. La seconde de Pierre, au chapitre 3, qui parle justement de la dissolution de ce monde, eh bien, verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, chapitre 3, la seconde de Pierre, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien de votre conduite et votre piété doivent être saintes, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons, mais en même temps, nous travaillons à l'avènement du Fils de Dieu. Et nous prions avec tous les saints et avec l'Apocalypse, et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Amen, viens Seigneur Jésus ». C'est la dernière prière de l'Apocalypse, pas la dernière parole, puisque la dernière parole c'est que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous, mais c'est vers quoi l'Église et donc tous les saints sont tournés, le retour et l'avènement de leur Seigneur. Alors pour cela, eh bien, soyons dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dans la purification pour être semblable à lui, car lui est pur, dans la persévérance à bien faire pour atteindre justement à l'immortalité, la persévérance dans la foi au milieu de toutes les tribulations et les épreuves, afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je ne vous donne pas toutes les références et je ne les développe pas parce que c'est bien sûr beaucoup trop long. C'est un message en soi. Mais je prends quand même cette parole de Jésus lui-même dans l'Évangile selon Luc, 21, verset 36. Je prends à partir du verset 34. « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Frères et sœurs, j'espère que nous serons tous debout lors de l'avènement du Fils de l'homme, ayant persévéré, ayant veillé, ayant prié, ayant témoigné de la grâce de Dieu, ayant tranché là où il faut trancher avec toutes les idolâtries et l'état d'esprit du monde qui lui conduit bien sûr également à toute l'immoralité. N'oublions jamais que la première grande manifestation d'idolâtrie qui est le veau d'or, alors que Moïse recevait le témoignage de Dieu sur la montagne, la grande idolâtrie qui était le veau d'or a donné lieu à des excès de manger et de boire et ensuite à de l'immoralité totale. Et Moïse, en descendant de la montagne, a trouvé ce peuple qui s'était complètement dépravé dans l'idolâtrie, avec l'idolâtrie, associée à l'idolâtrie, il y a toujours l'immoralité. Alors, que Dieu vous préserve de cela, qu'il vous donne une vie sainte, une vie où vous faites attention à vous conduire selon la vérité du Seigneur et à le glorifier, parce que de toute façon, c'est toujours le Seigneur qui a raison. Les hommes ont toujours tort devant Dieu. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, qu'il soit individuellement ou bien que ce soit globalement, même si une armée se levait contre moi, je ne craindrais rien, dit le psalmiste. Si le monde entier s'élève et si le Seigneur nous avait gardés, dit également le psalmiste, quand les hommes se levèrent contre nous, nous aurions été engloutis. Mais le Seigneur est avec nous et il nous gardera, il vous gardera de cette puissance d'iniquité qui veut faire des ravages dans le camp de la sainteté. Amen.